L'Éternel est mon berger. Et dans le psaume 23, ça c'est important, Dieu nous donne 12 convictions fermes. Qu'est-ce que c'est une conviction? C'est une pensée ferme que nous avons, la foi ferme, ce que Dieu dit. Donc, je vous donne juste quelques pensées basées sur le psaume 23 pour nous encourager. C'est un psaume qui m'a encouragé et je veux le partager avec vous ce matin. Semons ces convictions dans notre cœur. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour l'oublier, mais c'est pour l'appliquer. Le psaume 23 peut nous donner 12 convictions fermes. Donc, je vais prendre rapidement ces phrases qui viennent du cœur inspiré par Dieu, le cœur de David, le roi. Donc, il y a 12 convictions fermes venant de la parole de Dieu comme une préparation pour les événements imprévisibles qui peuvent nous arriver, qui peuvent vous arriver. C'est une bonne préparation pour nous, car c'est aussi l'expérience donc quotidienne de David, qui était un homme comme vous et moi, et un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, David? Ça veut dire chéri, chéri de Dieu. Je trouve que c'est très beau. Comme David, c'est un nom que j'aime beaucoup. Voici les 12 convictions dont nous avons besoin. Donc je commence avec la première phrase. Qu'est-ce que David a dit? Inspiré par Dieu, il a trouvé que Dieu est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça donne la première conviction qui peut vous aider. Mon Père Céleste pourvoira toujours à tous mes besoins. Donc je donne 12 convictions, chaque fois une phrase qui vient du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Conviction, mon Père Céleste pourvoira tout toujours. Il y a un deuxième. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Conviction, mon Dieu veut que partout je vive dans sa paix. Mon Dieu veut que partout où je me trouve, je vive dans sa paix. Ça, c'est une deuxième conviction. Et je continue. Il y aura 12 en tout. Troisième. David, dans le psaume 23, il me dirige près des eaux paisibles. Conviction, mon Dieu a un plan pour ma vie et il me rafraîchit. Mon Dieu, mon Père Céleste, a un plan pour ma vie et il me rafraîchit. De temps en temps, on se sent vanné, on se sent sec spirituellement, mais Dieu est là pour me rafraîchir. Quatrième, David a dit dans le psaume 23, il restaure mon âme. Ça donne la conviction, mon Dieu est le grand restaurateur de mon être. Mon Dieu est le grand restaurateur de mon être. De temps en temps, on a besoin d'être restauré. Oui. Comme on va au restaurant pour prendre un repas pour notre corps, Dieu veut le faire pour notre âme parce que notre âme, notre esprit nous dirige. Il a une grande influence sur notre corps. Cinquième, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ça donne la conviction, je peux compter sur Dieu pour me faire justice. De temps en temps, il y a des gens qui nous ont accusés, à tort et à travers, même de la famille, ça peut arriver. Des choses qu'on a dit de nous, mais qui ne sont pas vraies, mais Dieu le sait. Mais il est là. Et je peux compter sur Dieu pour me faire justice. À Dieu la justice. Il y a la sixième pensée. Quand je marche, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quelle conviction. Voilà la conviction que ça donne. Je peux vivre sans peur, même dans les moments les plus sombres. Car mon Père Céleste sera avec moi. Quelle assurance merveilleuse. Conviction, je peux vivre sans peur. Je l'ai souligné. Ce matin, j'ai photographié ça. Même dans les moments plus sombres, Dieu est avec moi. Il veut que je vive sans peur, car mon Père Céleste sera avec moi. Et il sait ce qui est bon pour moi, il peut me protéger. Déjà le septième. Ta houlette est ton bâton me rassure. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela comme conviction? Conviction, mon Dieu me redresse quand je suis tombé. Ça parle de sa houlette, parce qu'on parle de houlette et bâton. Donc mon Dieu me redresse quand je suis tombé. Ça parle de sa houlette. Et Dieu me protège contre le diable. Le bâton parle justement de cela, de cette protection de Dieu. Dieu me protège contre le diable. Donc conviction, double conviction. Mon Dieu me redresse quand je suis tombé, houlette. Et Dieu me protège contre le diable. Ça parle de son bâton. On arrive déjà au huitième point. Dans ce psaume assez court, Dieu dit, à travers de David, il encourage David, et il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ça donne aussi une conviction ferme pour vous et pour moi. « Mon Dieu me donnera la victoire contre les mauvais esprits, contre les démons. » Mon Dieu me donnera la victoire, sa victoire, contre les mauvais esprits, contre les démons. Donc ça, c'est une conviction ferme aussi. Ça va vite, hein, Rémi? Oui. Voilà, encore un point important. Tiens, tiens, tiens. On arrive déjà au neuvième point. David dit quelque chose de si merveilleux. Tu ventes ma tête. Et ça donne aussi une conviction ferme. Et c'est aussi un encouragement. Quand je suis blessé, mon Père Céleste veut me guérir. Tu ventes ma tête. Quand je suis blessé, mon Père Céleste veut me guérir. C'est une conviction ferme aussi. Il est là pour nous guérir physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement, socialement. C'est donc le neuvième déjà, neuvième conviction. Dixième, et David dit, il ajoute, et ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça donne comme conviction? Mon Dieu me donnera toujours assez pour pouvoir le partager avec d'autres. Et il y a des gens autour de nous qui ont besoin vraiment d'être encouragés aussi, et Dieu nous encourage pour encourager les autres. Ouais. Et j'arrive déjà au 11e pensée. David dit à la fin de ce psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ça donne une conviction ferme et un encouragement. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut m'accorder, ça c'est la conviction, Dieu veut m'accorder sa grâce et le bonheur pour chaque jour de ma vie. Ça parle de sa miséricorde et la bonté divine. Dieu veut m'accorder sa grâce, à souligner sa grâce, et le bonheur, son bonheur, pour chaque jour de ma vie. Grâce parle du pardon de Dieu, et bonheur parle de la présence et des promesses de Dieu. Grâce et bonheur. C'est important aussi. En anglais, c'est traduit d'une autre façon à la fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Goodness and mercy, ça parle de sa bonté et la miséricorde de Dieu. Oui. Alors, douzième et dernière pensée, ça vient aussi du psaume 23. David ajoute, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est merveilleux, hein, d'avoir une histoire comme ça qui termine bien, positivement. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ça donne la douzième conviction. Dieu veut me donner l'assurance de son salut, car le salut est le don de Dieu pour celle et celui qui croit en Jésus. Comment je le sais? Parce que dans le La première épître de Jean, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 13, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, pas que vous doutiez ou que vous espériez, mais que vous sachiez, on peut savoir qu'on a la vie éternelle, parce que la parole de Dieu le dit. De temps en temps, on peut douter, mais Dieu nous a donné une assurance qui est ferme. Dieu veut me donner l'assurance de son salut. C'est la conviction. Car le salut est le don de Dieu pour celui et pour celle qui croit en Jésus. Je termine déjà, Rémi. Prière, Seigneur Jésus, aide-nous de croire fermement dans ces 12 convictions pour nous encourager et pour vivre pleinement ce que tu nous as offert dans la Bible. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Juste chaque fois un petit morceau. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi de croire fermement dans ces 12 convictions pour m'encourager et pour vivre pleinement ce que tu m'offres dans ta parole. Alors je veux juste répéter rapidement les 12 convictions parce qu'on oublie facilement, hein. Donc, première conviction, c'est que mon Père céleste pourvoira toujours. Beryl, il y a longtemps, elle me racontait l'histoire d'un petit garçon qui était à l'hôpital et il était très très malade et il est mort à l'hôpital. Et quand l'infirmière l'a trouvé, il avait un doigt qu'il tenait et on ne savait pas ce que ça voulait dire. Tu peux le raconter peut-être mieux que moi, Beryl, parce que je suis encore un petit peu fatigué. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu veux le dire ici? Comme ça, je peux mieux écouter. C'est une histoire que Beryl m'a dit quand j'étais jeune et beau.
Pour moi, ce n'était pas à l'hôpital, c'est un petit berger qui était dans les champs. Et il gardait les troupeaux. Et c'était une nuit, il s'est perdu. Mais chaque jour, il savait que Jésus était son bon berger. L'Éternel est mon berger. Non, l'Éternel est mon berger. Et souvent, il le racontait, il le disait. Alors un jour, il est perdu dans les montagnes en cherchant les brebis et on l'a trouvé mort par terre en tenant son doigt comme ça. Et ça veut dire l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et comme un petit enfant, je dis, oh, l'Éternel est mon berger aussi. Est-ce qu'on peut... Tout le monde, est-ce que nous pouvons dire l'Éternel est mon berger? Est-ce que vous pouvez le dire et le croire? Il est mon berger, il est à moi et je suis à lui.
Merci Beryl. Ça c'est très important qu'on le sache pour deux raisons, rapidement. Il y a des gens qui croient être Dieu, être chrétien parce que leurs parents, leurs grands-parents étaient chrétiens, ils sont dans une famille chrétienne. Mais moi, j'appelle ça la religiosité. Si on n'a pas la conviction moi-même, nous-mêmes, mais on s'appuie sur nos parents, nos grands-parents, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants, mais pas de petits-enfants. Nous devons croire pour nous-mêmes. Il y a d'autres gens qui sont vraiment chrétiens, ils ont cru en Jésus, mais ils n'ont pas l'assurance de salut. Et ça, c'est triste. Donc il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui croient qu'ils sont en règle avec Dieu, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont en règle avec Dieu et n'y croient pas. Et ça, c'est triste. Dieu veut nous donner de l'assurance salut ce matin. Il est à lui, il est à moi et je suis à lui. Et souvent, je remercie le Seigneur, jour et nuit, Seigneur, merci. Parce que de temps en temps, je doute même de la présence de Dieu. Cette semaine, j'ai eu vraiment sur le plan des attaques spirituelles et il faut prier les uns pour les autres. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'on lit dans la Bible et on est attaqué? Ne croyez pas que vous êtes à l'abri parce que ça m'est arrivé cette semaine encore. Est-ce que tout ce que j'ai dit, on prie, mais est-ce que Dieu vraiment répond? Si vous n'avez jamais douté, je me demande si votre foi est profonde. Ça se peut qu'on passe par des moments difficiles et le diable est là pour nous tenter. Alors je vais vous donner juste les 12 convictions rapidement et je termine. Conviction, mon Père Céleste pourvoira toujours. Deuxième conviction, mon Dieu veut que partout je vive dans sa paix. Troisième conviction, mon Dieu a un plan pour ma vie et il me rafraîchit. Quatrième conviction, mon Dieu est le grand restaurateur de mon être. Cinquième conviction, je peux compter sur Dieu pour me faire justice. Sixième conviction, je peux vivre sans peur, même dans les moments les plus sombres, car mon Père Céleste sera avec moi. Septième conviction, mon Dieu me redresse quand je suis tombé. Ça parle de sa houlette. Et Dieu me protège contre le diable. Ça parle de son bâton. Huitième conviction déjà, mon Dieu me donnera la victoire contre les mauvais esprits, contre les démons. Neuvième conviction, quand je suis blessé, mon Père Céleste veut me guérir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Dixième conviction, mon Dieu me donnera toujours assez pour pouvoir partager avec d'autres. Onzième conviction, Dieu veut m'accorder sa grâce et le bonheur pour chaque jour de ma vie. Sa miséricorde et sa bonté est merveilleuse. Grâce parle de son pardon. Bonheur parle de sa présence et de ses promesses. Et la douzième conviction et dernière, Dieu veut me donner l'assurance de mon salut, car le salut est le don de Dieu pour celle et celui qui croit en Jésus. Priez pour moi parce que dimanche prochain, je donnerai un message. Ça, c'est seulement quelques pensées d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bonjour à tous et à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien dormi, un petit peu plus court. Oui. On prend jamais l'habitude. Hein. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite de mon message de ce dimanche passé. Vous vous souvenez encore, c'était sur le psaume 23, avec 12 convictions fermes du roi David. Et c'était sur la personne de Dieu. Peut-être vous vous souvenez encore, juste pour répéter, il y avait 12 convictions qui étaient donc fixées et qui venaient du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, avec la conviction, mon Père Céleste pourvoira à tous mes besoins. Vous vous souvenez peut-être encore. Il y avait une deuxième conviction, mon Dieu veut que partout je vive dans sa paix. Troisième conviction, mon Dieu a un plan pour ma vie et il me rafraîchit tous les jours. Alléluia. Quatrième conviction, mon Dieu est grand, il est le restaurateur de mon être. Parce que dans le psaume, on trouvera, merci beaucoup, tu m'as rafraîchi aussi. Il restaure mon âme. Et puis le cinquième, il me conduit dans le sentier de la justice. Avec la conviction, je peux compter toujours sur Dieu pour me faire justice. Quand on est attaqué et puis quand on nous accuse à tort et à travers. Puis le sixième, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Ça donne la conviction, je peux vivre sans peur, même dans les moments les plus sombres. Car mon Père Céleste sera avec moi. Septième conviction qu'on a vue ensemble, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a le mot houlette et bâton. Avec ça donne la conviction, mon Dieu me redresse.
Pardon.
Mon Dieu me redresse quand je suis tombé, ça parle de la houlette, et mon Dieu me protège contre le diable, contre les mauvais esprits, ça parle du bâton du bon berger. Huitième, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ça donne la conviction, mon Dieu me donnera la victoire contre les mauvais esprits. On a presque terminé. C'était la semaine passée. Donc, encore une autre conviction qui est basée sur « Tu oins d'huile ma tête. Quand je suis blessé, mon Père Céleste veut me guérir. » Merci pour cette promesse aussi. Parfois, ça prend du temps, mais il le fait. Il le fera. Ma coupe déborde. C'est aussi dans le psaume 23. Mon Dieu me donnera toujours assez pour pouvoir le partager avec d'autres après moi. 11e, puis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Dieu veut m'accorder sa grâce et le bonheur pour chaque jour de ma vie. Ça parle de sa miséricorde et de sa bonté divine. Grâce parle de son pardon et le bonheur parle de sa présence et de ses promesses. Et je termine avec la 12e conviction. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça donne la conviction. Mon Dieu veut me donner l'assurance de mon salut. Car le salut est le don de Dieu pour celui qui croit en Jésus. Voir 1 Jean chapitre 5 verset 13 où on lit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Seigneur Jésus. » On a vu ça ensemble, vous vous souvenez? Peut-être oui, peut-être non. Alors mon message aujourd'hui, j'ai bien réfléchi avant de parler. Nous allons voir ensemble la suite de mon message de ce dimanche passé, qui était basé donc sur le psaume 23 avec les 12 convictions qu'on vient de lire. Alors c'est assez compliqué quand je le dis la première phrase. La conviction est basée sur quoi? La conviction est basée et vient de l'interprétation de la perception. C'est important. La conviction que nous avons vient de l'interprétation de la perception d'un certain événement, d'une certaine circonstance, d'une certaine situation, d'une certaine personne ou d'une certaine chose. Donc on a vécu quelque chose, mais tout dépend de notre perception de cela. Cette interprétation détermine notre choix. Et comment bien choisir, c'est le sujet donc de mon message d'aujourd'hui. Le message n'est pas compliqué, mais c'est à vivre. Et chaque jour, on apprend. Donc, on va voir ça ensemble. Et j'ai besoin de la première feuille, et je ne trouve pas. Bien, bon. Allez-y, John. Comme introduction pour nous tous, notre vie, je pense, est remplie de situations diverses, des actions et des réactions. On a des actions, mais aussi des réactions. Et moi, je suis frappé par le fait que souvent, les gens réagissent mal. On est souvent touché, par ce qui se passe dans la société, ce qui se passe autour de nous, et on réagit mal. Avec des contestations, de rébellion ou du stress. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore bien des gens qui sont découragés et déprimés par le virus, par la COVID-19. Étant chrétien, comment est-ce que nous allons réagir? Ça, c'est important. Nous devons faire attention à ne pas réagir comme les gens qui ne connaissent pas Jésus, comme leur sauveur. Étant enfants de Dieu, nous avons besoin de choisir et de bien réagir par la foi ou de mal réagir comme Dieu n'existe pas. Donc nous devons réagir pas comme les autres qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment choisir selon la pensée de Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire. Comment bien réagir aux situations pénibles? Ça peut nous arriver. Il faut apprendre à discerner entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer, selon vous? La météo. Si on veut ou si on ne veut pas, le soleil brille ou il va pleuvoir, mais vous ne pouvez rien changer. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, la terre qui tourne. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer à la loi de pesanteur. Tu peux essayer, tu sautes de 6e étage, tu es libre de sauter, mais tu ne peux pas empêcher de t'écraser. C'est comme ça, c'est la loi de pesanteur. Il y a des gens qui ont essayé, mais c'est désastreux. Donc ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, j'ai noté ça sur ma feuille, c'est important d'avoir de bonnes réactions aux événements. D'avoir de bonnes réactions aux événements, parce que certains événements de notre vie ne peuvent pas être changés. Mais la suite dépend de notre façon d'agir et de réagir. Comment est-ce que je vais réagir aux certains événements, à certaines personnes dans ma vie? Il y a des études qu'on a faites sur ça. Les études montrent qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas de contrôle sur 10% de ce qui nous arrive. Il y a 10% des choses qui nous arrivent, on ne peut rien changer. Mais il y a encore 90% qui restent, qui sont déterminés par nos réactions. Ça, c'est pour moi, c'est une consolation. On peut faire quelque chose quand même. Et on va voir maintenant, donc, nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler nos réactions aux événements. Sinon, les réactions nous contrôlent. Donc, c'est très important. Et ensemble, j'aimerais bien voir avec vous un exemple de la Bible qui montre qu'un même événement peut donner deux réactions différentes. Un même événement. On va voir ça ensemble dans Nombre chapitre 13. Si tu veux nous aider un petit peu, je veux le lire avec vous. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne, important cette phrase, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père et ils seront les principaux d'entre eux. » Donc il y avait 12 personnes qui sont envoyées. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, c'était Shamua, fils de Sakur. Il y a les 12 noms. On saute. On va petit peu plus loin. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Donc c'est 12 explorateurs. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Et on le trouve plus tard, il y a même un livre qu'on trouve dans la Bible avec le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou s'il est un grand nombre, ce qu'est le pays où il habite. » S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou si elles sont fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Assez bon courage et prenez les fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehobob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shesai et Talmaï. Ce ne sont pas des noms français. Enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. On continue. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Donc c'est une grappe énorme. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Il n'y a rien de mieux que de montrer un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont cueilli. Mais le peuple qui habite ce pays, le mot « mais » est très important, hein, 4 lettres, mais ça change tout. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'était des géants. Les Amalekites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Point d'exclamation. Mais, qu'est-ce qui arrive? Les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et les sauterelles sont pas grandes, hein, sont petites. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, c'est Dieu qui parle, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalekites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partagez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Si vous ferez ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Donc il y a Caleb et Josué qui peuvent entrer. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même, que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrit le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ce n'est pas gai, hein? Mais il y a donc une bénédiction pour ceux qui comptent sur le Seigneur. Et on va voir ça ensemble. Mais je trouve ça merveilleux. Tout peut changer, pour vous et pour moi. Donc, j'ai posé quelques questions. Pour quelles raisons? Donc, il y a des choix différents. Il y a 2 choix différents. À leur retour, 10 espions donnent un rapport négatif et décourageant. Le pays est magnifique, ils disent, mais c'est impossible de le prendre, car il y a des géants et les villes sont fortifiées. Ils se voient eux-mêmes comment? Comme des sauterelles. C'est pas grand chose, hein? Vous m'entendez? Vous dormez? Ça va? Ils se voient comme des sauterelles. Oh, c'est triste cette histoire. Moi, je trouve que c'est très triste. Mais il y a aussi 2 autres. Et vous savez, ce récit me montre clairement que souvent la foule a tort. Il faut faire attention parce que nous sommes plus nombreux, donc nous avons raison parce que nous sommes plus nombreux. Souvent la foule a tort. Dans l'histoire aussi, et ici aussi dans la Bible. Mais il y a deux espions, Josué et Caleb, qui donnent un rapport positif complètement opposé au rapport de 10 espions. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est vrai qu'il a des géants et des villes fortifiées, mais nous pouvons réussir et prendre le pays avec... Comment est-ce qu'ils peuvent le prendre? Avec l'aide de Dieu. Et ils ont fait un choix positif. Donc il y a un choix négatif par les 10, il y a un choix positif par les 2. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le peuple a entendu le rapport et maintenant il a un choix à faire. Donc on voit un petit peu un choix aux mêmes circonstances. Ça c'est intéressant. Hein? Le peuple a entendu le rapport et maintenant il a un choix à faire. Comment vont-ils réagir? Alors une grande partie du peuple a peur, première chose. Deuxième, ils refusent de se battre. Troisièmement, ils refusent d'entrer dans le pays promis. Quatrièmement, ils se rebellent contre Moïse. Et cinquièmement, ils désirent retourner en Égypte. Et vous savez, le peuple d'Israël était esclave. C'est un esclavage pour eux en Égypte, mais ils désirent être esclaves en Égypte que d'entrer dans le pays promis. Sixièmement, ils réagissent violemment contre Josué et Caleb, contre les deux qui étaient plus positifs. Seulement un petit nombre de personnes acceptent le rapport de Josué et de Caleb. Donc ça, c'est important de savoir. Alors, je me suis posé une question. Donc, la question se pose, comment est-ce qu'on est arrivé à ces deux réactions complètement opposées? Même événement, même circonstance, ils ont vu le même pays et ils ont entendu les mêmes récits, mais il y a deux choix complètement opposés. Qu'est-ce que je pense? Je pense que les 10 espions ont eu, premièrement, peur de l'homme. Deuxièmement, ils n'ont pensé qu'à leur propre force. Et troisièmement, ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu de leur donner le pays promis. Parfois, Dieu nous promet de nous donner quelque chose. Est-ce qu'on croit Dieu ou est-ce qu'on ne le croit pas? On met sa confiance plutôt à l'homme que sur Dieu, qu'on ne voit pas. Ce n'est pas toujours évident. Hein. En pratique, ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a deux autres, et ça, ce sont des exemples pour nous ce matin, c'est Josué et Caleb. Je vais pas trop vite? Non, mais vous êtes gentil, jusqu'à maintenant. Alors, les deux autres, Josué et Caleb, ils n'étaient pas plus forts que les 10, mais ils ont eu confiance en Dieu. Et ils comptaient sur Dieu et sur sa puissance. Avec le résultat, ce sont seulement ces deux espions, ces éclaireurs, Josué et Caleb, avec les personnes de 40 ans ou 20 ans et moins, que Dieu laisse entrer dans le pays promis. Josué est devenu leur leader et ils ont remporté la victoire. Vous connaissez cette histoire. Mais pour moi, c'est important. Il y a les 10 d'un côté, 2 de l'autre. 2 avaient raison, les 10 avaient tort. La foi donne le courage. La foi donne le courage. La foi donne l'espérance. La foi donne la force. La foi donne la paix. La foi donne la joie. Souvent, on en parle à la maison aussi. Quand on est vraiment dans la foi, on est joyeux. Même dans les circonstances pénibles et difficiles. Cet exemple de l'expérience des 12 espions donne la réponse à la question comment un même événement peut créer deux choix complètement opposés. Vous me suivez jusque maintenant? Moi, je trouve cette histoire vraiment très profonde. Application. Quand nous passons par des circonstances pénibles, comment réagissons-nous? Disons-nous par peur, je ne peux pas faire ceci ou cela? Ou est-ce que nous réagissons avec courage, en comptant avec Dieu, même avec une foi faible, mais on croit que Dieu peut le faire. Ma vie est remplie de ça, que je dois faire un choix. Et je suis devenu comme un enfant. croyant que ce que Dieu dit, même si je ne le voyais pas encore, Dieu a raison. Ouais. Comment est-ce que nous fonctionnons? Le Seigneur, j'ai dit ça dans le passé ici, mais je l'ai dit ça pour des nouvelles personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps, ou qui sont ici pour la première fois. Dieu me donnait une image d'une voiture. Nous sommes venus ici tous, pratiquement tous, en voiture ce matin. Et Dieu m'a donné donc cette histoire sur notre fonctionnement. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Dieu nous a créés esprit, âme, corps. Pour le monde, on commence avec le corps. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous parlons esprit, âme, corps. Avec esprit, l'esprit, notre esprit, on a un contact avec Dieu. Avec notre âme, on a un contact avec les autres. Et avec notre corps, vous me voyez parce que j'ai un corps. Et ça, c'est intéressant aussi, donc, c'est une comparaison que Dieu m'a donnée une fois pendant la nuit. Le corps, notre corps peut être comparé avec la carrosserie d'une voiture. C'est ce que nous voyons de l'extérieur, avec la couleur, avec la forme, etc. Donc c'est la carrosserie, ce qu'on voit de l'extérieur. L'âme, c'est de l'intérieur de la voiture. On regarde dans la voiture, on voit la banquette, on voit le tableau de bord, on voit le volant. Ça, c'est l'âme. Et l'esprit, c'est ce qu'on ne voit pas, mais dont on a besoin pour avancer, c'est le moteur. Donc on a besoin de moteur, ça part de l'esprit, mais ça ne marche pas, on a besoin d'encore une chose, l'essence. Et l'essence, pour moi, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc on a besoin de corps, âme, esprit, mais aussi de l'essence, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va avancer? Non. On a besoin encore d'une autre chose, c'est la clé. Et même si tu as la clé, ça ne veut pas dire que ta voiture va avancer parce que tu dois la tourner. Ce n'est pas évident. Hein? Dans ma voiture, il faut mettre le pied sur le frein et après cela, la voiture, il faut le mettre en D, drive. Autrement, on n'avance pas. Donc, c'est assez compliqué, mais on a besoin de clé et il faut le tourner. Et tourner la clé, ça parle pour moi de la foi. Quand tu tournes la clé, il y a beaucoup de gens qui ont la clé, mais ne tournent pas. Il y a des gens qui ont une clé, et ils sont seulement religieux, mais ils n'ont jamais tourné la clé. Il faut tourner la clé et dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Vous me suivez jusqu'à maintenant, ou c'est trop compliqué? Mais pour moi, c'est une chose qui m'a aidé. Cela donne donc cela est devenu pour moi une conviction ferme par une expérience quotidienne, parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Il y a des réactions maintenant aux événements qui dépendent donc largement de notre conviction. Alors, quelles sont nos convictions? Nos convictions sont liées directement à notre foi en Dieu. Et dans ce sens, il faut revenir comme des petits-enfants. Il faut redevenir comme des petits-enfants qui ont confiance dans leurs parents, qu'il y aura toujours un repas le lendemain. Il y aura un repas pour aujourd'hui. Papa et maman, ils comptent pour nous. Et ce n'est pas évident. Hein? Quand moi j'ai appris le français, c'était intéressant. J'avais 7 ou 8 ans. À l'école primaire, il y avait une classe spéciale. Après le programme de la journée, à 16h l'après-midi, normalement l'école était terminée, mais de 16h à 17h, il y avait un cours sur le français. Comment apprendre le français? Mes parents m'ont inscrit, donc j'ai commencé, et je me souviens toujours de la première leçon. Papa fume une pipe, maman coupe le pain. Je me souviens toujours de la première leçon que j'ai eue en français. Après cela, j'ai compris, maman fume une pipe, papa coupe le pain. Mais c'était comme ça que j'ai appris cela. Après cela, j'ai compris, maman fume une pipe, et papa aussi. Tous les deux fument une pipe. Après cela, j'ai compris aussi, que maman ne coupe pas le pain, papa non plus, c'est le boulanger qui le fait. Il faut prier. Mais c'est comme ça qu'on apprend le français. Papa fume une pipe, maman coupe le pain. Je me souviens, c'est la première leçon en français, je ne l'ai jamais oubliée. C'est merveilleux le français. Et après cela, j'ai compris qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui fument une pipe. C'est gay, hein? J'ai vu mon grand-père fume encore une pipe, mais mon père non. Moi j'ai fumé une pipe. Et quand j'étais au bureau à Amsterdam, la directrice de notre compartiment, de temps en temps on ne le voyait plus parce qu'il a tellement de fumée. Un écran de fumée. Moi j'ai connu tout ça maintenant. Je ne fume plus à la maison. Mais si vous allez apprendre l'anglais, peut-être vous comprenez aussi en anglais. My dad smokes a pipe, my mother cuts the bread. C'est comme ça en anglais. L'anglais est plus facile que le français. Je parle le néerlandais, le français, l'anglais, j'ai appris l'allemand, un petit peu de russe aussi. C'est pas si bas. C'est pas évident, hein, les langues, on se perd de temps en temps. Le coréen, je n'ai pas compris encore. Ça va venir un jour. Vous pouvez m'aider. Alors, nos actions, nos réactions et nos choix sont liés à notre foi. C'est par la foi que tous les gens cités en hébreu, ça c'est intéressant, en hébreu chapitre 11, ils ont fait des exploits. Si vous le lisez une fois pour vous-même, hébreu chapitre 11, c'est la galerie des croyants. Ce sont des gens qui ont fait des exploits, des choses extraordinaires, mais par la foi. Hébreu 11 est rempli de cela. On grouille ça. Ça grouille des exemples. C'est un bon mot hein, en français. Ça grouille. Donc c'est un exemple puissant pour nous. Hébreux 11 pour nous aujourd'hui. Car leur Dieu est aussi notre Dieu. Pour terminer. C'est par la foi que nous aussi, nous pouvons faire des exploits pour le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? J'ai dit à Jacques, avant la réunion, est-ce qu'on peut chanter avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui... Continuez, parce que ce n'est pas... La victoire, lui, c'est toi, car lui, et lui, c'est un peuple de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui Amen. Oui. Bien, prière, juste pour terminer. Pensez à une chose, Philippiens 4, 13, que j'ai mis en musique il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on lit? Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut le chanter peut-être ensemble, Béril, parce qu'ils sont en forme ce matin. Non. Je puis tout par celui qui me fortifie. 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 Prière, on va prier. Est-ce que vous voulez vous mettre debout, s'il vous plaît? C'est terminé. Mon message était 24 minutes et demie. Prière, Seigneur Jésus, vous voulez dire après moi, Seigneur Jésus, nous te remercions que nous pouvons toujours compter sur toi. Pour le vouloir et pour le faire. Merci Jésus de ce que tu continues de nous bénir richement quand nous choisissons de vouloir devenir, quand nous choisissons de vouloir devenir de plus en plus comme toi. Avec toi nous ferons des exploits et nous remporterons la victoire. Comme Josué et comme Caleb. Amen. Soyez bénis. Merci.